viens d'où ? D'ici. Non mais tu viens d'où, vraiment ? Comment ça ? Tes origines ? Deux ou trois blagues, des remarques, une question soi-disant innocemment posée, une violence banale, taiseuse, qui se niche dans les relations quotidiennes et entrave la construction de son identité. Un racisme ordinaire encore là en 2025 et qui pèse sur les personnes racisées. Journaliste et écrivaine, Douce Dibondo fait le constat du silence autour de la charge raciale dans son essai « La charge raciale, vertige d'un silence écrasant » publié en 2024. Et nous avons le plaisir de l'accueillir ce soir dans la lorgnette puisque l'association Habitat Jeune au cœur de Vendôme l'accueille depuis octobre et jusqu'en juillet au foyer de jeunes travailleurs de la ville. Il n'y a pas que Douce en studio. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, je vais vous laisser vous présenter l'un après l'autre. Douce, j'ai tiré ton portrait à gros traits, mais tu peux te représenter. Et puis après, on présentera les trois autres personnes qui t'accompagnent.
Oui, bah merci déjà pour cet accueil. Je suis Douce Dibondo, je suis essayiste, poétesse. J'aime la lecture, l'écriture. Voilà, que dire de plus ? Je suis honorée de faire partie de cette association en tant qu'autrice associée avec le foyer de jeunes travailleurs du Vendôme. Et voilà, j'ai hâte de la discussion qui va suivre.
À ta droite, nous avons...
Régis, animateur en poste Habitat Jeune, ancien foyer de jeunes travailleurs, on les appelait comme ça il n'y a pas très très longtemps. Habitat Jeune au cœur de Vendôme, donc en poste depuis de nombreuses années. Et j'ai la chance d'associer le parcours de Douce à nos jeunes, à celui de nos jeunes, depuis septembre dernier, une semaine par mois. Et là, on est déjà à l'épisode 5, comme je dis, et 5 sur 7. Et on est très très heureux d'être accueillis aujourd'hui dans les studios de ZEF41.
À la gauche de Douce, nous avons...
Eh bien bonjour, moi c'est Shaima. On a suivi avec beaucoup de choses pour pouvoir échanger autour et pouvoir beaucoup parler avec Douce en tout cas. Ça fait plaisir.
Super. Et la dernière personne
Moi c'est Irel et... je vis aussi au foyer et moi je trouve ça très chouette justement les activités qu'on fait parce que de base j'étais pas quelqu'un qui est très sociabilisé à sortir avec, côtoyer les humains on va dire. Et les activités justement que Régis propose sont souvent intéressantes, mais bon c'est vrai que voilà. Et là le fait qu'il y ait justement une écrivaine
et oui, on a du mal avec la féminisation des noms.
Ça commence.
qui soit au foyer, c'est quand même super chouette parce que voilà, moi-même j'aime beaucoup l'écriture, la lecture et voilà aussi tous les combats qu'elle peut mener, c'est vrai que ça m'intéresse énormément et ça me touche et puis du coup c'est très chouette justement de pouvoir être là avec elle. Voilà.
Shaima et Erel, vous êtes au FJT depuis combien de temps ?
Moi personnellement ça va faire déjà un an. Depuis le 12 février 2024.
Et RL
Moi, ça fait... j'ai déménagé, quoi. C'était fin 2023 que j'ai déménagé. Donc, ça va faire 2 ans cette année.
Alors, ces ateliers, ils ont commencé en octobre dernier. Douce, comment ça s'est fait ? Et est-ce que tu avais déjà fait des ateliers de ce genre ?
Alors, dans ce cadre-là, non, mais j'ai déjà eu à être en résidence, on va dire une résidence plutôt liquide à Paris, où de janvier à juin, j'ai donné des ateliers d'écriture dans une structure associative qui s'appelle We Are Safe Place, donc nous sommes un lieu sécurisant, où pendant 1h30, selon la thématique, je pouvais parler d'astrologie, d'amour, d'enfance. Voilà, on écrivait en cercle et en communauté. Et puis, j'ai postulé pour une bourse au départ donc chez Cyclique, pour une bourse de 3 mois. Et cette candidature-là n'a pas abouti. En revanche, on m'a montré un autre chemin, donc celui de cette association entre une structure sociale et une écrivaine. Et donc j'ai pu ensuite tisser la structure de cette association-là, qu'est-ce qu'on entendait justement par médiation culturelle. Très bien, j'avais moi 30% d'un travail aller créatif à mettre en place pour l'écriture d'un roman, mais les 70%, comment on construisait ça? Et ben, cette question-là, c'est avec Régis qu'on a pu y travailler au mieux, et on s'est rendu compte qu'en effet, la question de l'écriture et de la parole était très importante. Et j'ai proposé à ce qu'on ait à la fois un support, donc un fanzine, où on va pouvoir regrouper les écrits des résidents, des résidentes qui auront participé à ces ateliers sur la thématique du futur, plus ou moins large. Et puis avoir aussi une captation sonore de quelques mots, de tous les textes, selon les envies, et qu'on en fasse quelque chose, une sorte d'archive qu'on pourra peut-être déterrer dans le futur, justement. Mmh. Et c'est comme ça qu'avec Régis, qui était aussi tout aussi fort de propositions et hyper créatif, qu'on a réussi et qu'on continue à mettre ça en place, quoi.
Régis, qu'est-ce que ça apporte au foyer, ces ateliers avec une écrivaine?
Je vais faire des comparaisons un peu douteuses, mais quand on a besoin de réfléchir sur notre alimentation, on fait appel à une diététicienne, par exemple. C'est ce que font mes collègues du service social. On parle souvent d'accompagnement social. Moi, j'ai très envie de parler, depuis des années déjà, d'accompagnement culturel. Le fait de venir déjà dans une radio comme aujourd'hui, radio associative, Blois, se déplacer, venir prendre la parole comme le font Scheimer et Rennes, c'est déjà un premier pas, au nom aussi de toutes les autres résidents qui n'ont pas pu nous accompagner aujourd'hui en milieu d'après-midi. Mais je crois que c'est ça, c'est d'aller vers, franchir, faire le premier pas, et puis oser. Nous sommes le premier établissement foyer de jeunes à accueillir en effet une écrivaine dans nos murs, en mode résidence. Souvent, ces formules-là d'accompagnement d'écrivains se font plus dans des lieux dédiés, des lieux établis, des médiathèques ou autres. Ici à Blois, il y a plein d'expériences qui sont menées. Mais le fait que ce soit dans nos murs, dans l'établissement, une semaine par mois, sur une périodicité qui va de septembre à mai, je pense que c'est vraiment une première, une expérience. On est dans l'expérimentation et on est fiers de ça. Mmh.
Erel et Shaima, vous, quel était votre rapport à l'écriture avant ces ateliers? Est-ce que vous aviez déjà une envie d'écrire, ou est-ce que c'était déjà une activité pour vous?
Alors moi, j'écrivais personnellement sur mon côté, parce que en fait, je suis une personne où j'ai beaucoup de mal à m'exprimer, et pour m'aider à m'exprimer, à aller mieux et comprendre un peu mieux mes sentiments. Et puis j'ai commencé à écrire dans plusieurs bouquins, un peu partout sur des feuilles. Et ça m'aidait énormément, par exemple sur un coup de tristesse où je n'allais pas bien. Je prenais mon livre sur moi quand je sortais aussi. J'écrivais avec des amis ou autres, et ça m'aidait à aller mieux. Et franchement, écrire, c'est quelque chose de super. Quand on a du mal à nous sentir, à contrôler nos sentiments pour ce genre de choses. Et franchement, c'est bien de pouvoir s'exprimer de cette façon-là. Mmh.
Erel, tu parlais tout à l'heure du fait que les combats de douce, ils te parlent. Alors, pour les auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas forcément Douce Dibondo, qu'est-ce que tu as compris de ces combats, de ces luttes? Est-ce que tu pourrais un peu nous présenter son travail? Parce qu'on a parlé écriture pour le moment, mais je te laisse la parole.
C'est beaucoup dans tout ce qui concerne le racisme et aussi le féminisme. Donc moi, c'est vrai que c'est, on va dire, plus le féminisme qui me touche, voilà, vu que je ne suis pas une personne racisée. Mais c'est quand même des choses qui sont intéressantes, justement, le travail qu'elle peut faire, aussi les échanges qu'elle donne avec nous, parce que c'est vrai que, par exemple, dans notre foyer, on a beaucoup de jeunes qui sont soit justement des personnes qui peuvent être racisées, soit tout simplement, voilà, c'est vrai que c'est bien d'avoir ce moment aussi, quand on est en tant que femme, de pouvoir échanger avec d'autres, surtout pour dire des garçons, sur notre point de vue, nos ressentis et tout, et aussi que eux, que ça leur ouvre aussi un peu plus les yeux, parce que c'est vrai que malheureusement, ce que j'ai beaucoup constaté sur par exemple les réseaux sociaux, c'est que beaucoup de féministes sont trop dans l'agression et pas dans l'échange, alors que justement ce qu'on peut faire avec Douce et la manière de comment elle peut s'exprimer, ça n'a pas ce côté agressif, dans le sens où c'est vous les hommes, vous êtes des mauvaises personnes, ou vous les racistes, vous êtes des mauvaises personnes, mais plus essayer de comprendre en fait que c'est pas bien et qu'il faut changer ça, comme ça tout le monde pourra être mieux dans leur peau, pour tout le monde, parce que même les personnes, on va dire, qui agressent, on va dire, c'est pas forcément qu'ils vont bien non plus dans leur tête, quoi. Et du coup, qu'elles prennent une approche qui est plus douce, juste sans vouloir faire de jeu de mots. C'était pas vrai. Mais voilà, plus dans un côté plus pacifiste, et justement, bah, pouvoir échanger et qu'elles laissent tout le monde parler aussi, bah, ça, du coup, ça donne. C'est plus agréable, justement, je trouve, comme chose, quoi.
Alors, Douce, tu es connue pour tes recueils de poésie et aussi pour le livre La charge raciale, vertige d'un silence écrasant, publié en 2024. Mm-hmm. On va en parler un petit peu. Le terme de race, il a été effacé de la Constitution en 2018. Mais ce que montre ton livre, c'est que l'assignation à la race, elle est toujours là. Et qu'en 2025, le racisme gangrène un peu toutes nos interactions, même si on n'en a pas l'impression. Tu expliques que la charge raciale, alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est et les trois points sur lesquels, ces trois aspects principaux?
Oui, la charge raciale, c'est ce que vous disiez au début, en fait, c'est à quel point la banalisation du racisme, le racisme dit ordinaire, empiète dans le quotidien des personnes racisées, dans des choses très, très petites, des choses dont on ne se rend pas compte. C'est la manière dont on va anticiper, être en hypervigilance pour correspondre à ce qui est attendu de nous dans la sphère du travail, mais aussi dans la sphère de la famille, du couple, face aux institutions que sont la police, le système médical, etc. etc. Donc, on peut faire la comparaison avec la charge mentale, hein, donc la charge domestique qui avait été théorisée par Christine Delphine, qui montrait à quel point les femmes dans un foyer hétérosexuel avaient en fait une charge immense en termes de tâches domestiques, de préparation des enfants, de l'école, de liens aussi avec la famille, la belle famille, etc. Et en fait, cette tâche mentale-là, vous la sortez de la sphère privée et en fait, vous la grandissez dans la société et voilà la charge raciale. Moi, il va falloir que, en tant que personne noire, et je l'ai vécu, en fait, avoir les cheveux plutôt lisses pour paraître plus professionnelle, parce que mon afro apparemment fait trop sauvage, trop délabré, etc. Alors que c'est littéralement la personne que je suis. Donc on demande à ce que j'efface une partie de mon identité pour correspondre à ce qui est censé être la conformité, en fait, la conformité blanche, au final. C'est la manière dont il va falloir jouer un personnage, porter des masques, pour ne pas paraître trop agressive en tant que personne noire. Si je suis trop dans l'introversion ou dans le silence, c'est perçu comme quelque chose d'autan. Parce qu'on a cette vision-là des personnes noires qui sont tout le temps dans la joie, qui ont la banane, qui ont le sourire, qui divertissent, en fait. Et donc, aller à contre-courant de ça, c'est déjà bousculer l'ordre établi. Et donc, la charge raciale, c'est ça. Et donc, moi, quand j'écris ce livre, je me rends compte qu'au-delà même de la description de cette charge raciale quotidienne, il faut déjà aller dans le passé, montrer pourquoi il y a cette charge historique qu'on porte malgré nous, pourquoi les enfants noirs, les enfants racisés, à partir de 6-7 ans, ont besoin peut-être pas besoin, mais en tout cas, passent par cette phase initiatique où les parents leur disent « Voilà, voilà ce que votre couleur de peau, votre nom dit de vous, votre religion dit de vous, il va falloir faire 2, 3, 4 fois plus pour être accepté, pour arriver à vos objectifs. » Et donc, à partir de là, on perd cette innocence, cette insouciance en tant qu'enfant. Donc c'est ça la charge historique, vous voyez. À partir du moment où le monde a décidé que certaines personnes étaient des esclaves éternels, donc il y a quelques siècles, 4 siècles maintenant, ce passé-là, il joue toujours dans notre quotidien, parce que avoir cette couleur de peau, avoir tel nom, etc., ça joue dans l'inconscient collectif et on est traité de manière différente. Et enfin, donc, la charge historique, la charge, on va dire, plutôt interpersonnelle, comme je disais, liée aux institutions, aux couples, aux gens qui nous entourent. Et puis, il y a cette charge qui, elle, est la plus difficile à voir, en fait, parce que c'est une charge qui est intrapersonnelle. C'est de l'ordre de comment on se voit dans le miroir, comment on arrive à s'aimer, en fait, tout simplement, quand on nous renvoie à une beauté qui n'est pas censée être, parce qu'on ne correspond pas aux standards de beauté, par les cheveux, par les traits, par tout ce que vous voulez. Comment ça veut, qu'est-ce que ça veut dire de faire famille quand cette famille-là est combattue par l'État français, quand cette famille est perçue comme pauvre, avide des allocations familiales, etc. Vous voyez tous ces clichés-là, comment on se construit en tant qu'être. Et Fanon, Frantz Fanon, qui est un psychiatre révolutionnaire, disait souvent que en tant qu'homme noir, mais je peux dire aussi en tant que femme noire, en tant que personne noire, lui se sentait tiraillé entre le néant, c'est-à-dire cette charge raciale qui écrase, et le champ des possibles et l'infini, quoi. À quel point, en fait, on se sent humain au-delà des stéréotypes, au-delà du poids de la race. Mais comment on en sort, comment on s'en libère? Bah, c'est tout le travail qu'on fait, justement, de sensibilisation, de militantisme, à essayer de pousser justement les limites et nous alléger de cette charge.
Régis, Erel et Chaïma, vous n'êtes pas des personnes noires, vous êtes des personnes blanches, vous faites partie de la blanchité, comme tu l'évoques dans le livre. Est-ce que dans ce que dit Douce, pour vous, il y a des situations où vous vous retrouvez dans le fait de se sentir oppressé par des injonctions, par des stigmatisations?
Oui, enfin, c'est toujours difficile. Enfin, le premier homme noir que j'ai rencontré, j'avais 15-16 ans, lui aussi. C'était dans la ville de Leblanc, dans l'Indre. Et lui, ça l'amusait. Mais pas moi. Pas moi, parce que je sentais que c'était comme un malentendu. Pour moi, les premiers hommes noirs, ils étaient dans ma télévision, ils étaient sur les pochettes de mes disques de jazz, et je n'avais pas conscience de l'existence même réelle des hommes de couleur. Et puis en vieillissant et en travaillant auprès des jeunes et auprès des jeunes mineurs qui arrivent d'Afrique de l'Ouest, qui arrivent de partout, j'ai fait ce constat, hein, où il est toujours difficile, délicat pour eux de s'intégrer, de vivre au quotidien, de vivre leur quotidien, de survivre même des fois. Et donc maintenant, en vieillissant, j'ai presque tous les stéréotypes de l'homme blanc, voilà. Et en même temps, je franchis un cap d'âge. Je m'aperçois aussi de l'effet de l'âgisme. Hein, commence à vieillir, Régis. C'est toi l'ancêtre, c'est toi le plus âgé, voilà. Comme Douce raconte, qu'est-ce que vous remarquez dans cette scène? Je suis la seule jeune femme noire. Parfois, je me dis, dans mon quotidien de travail ou de vie du quotidien, je suis le seul homme de plus de 55 ans, de plus de 60 ans. Quand je réponds à des questionnaires maintenant, hop, j'ai changé de petite case. Voilà. Donc oui, c'est des choses que l'on peut vivre. J'ai aussi des neveux et nièces qui sont franco-maliens. J'ai ma petite-fille, mes petits-enfants qui sont aussi métis. Voilà, donc c'est quelque chose que j'ai toujours voulu garder en moi, le travailler, le lire, le comprendre, essayer de le comprendre.
Chaïma Erel, tu veux se lancer?
Tout à l'heure, t'as commencé. Aussi. Moi, personnellement, ça a été un peu le contraire, entre guillemets, de Régis, dans le sens où c'est quand j'ai découvert le racisme, parce qu'en fait, mon grand-père maternel est tunisien, donc déjà, voilà, moi, j'avais pas ce truc du... Il y a les blancs d'un côté et puis les autres. Mmh. Et en fait, bah, je suis aussi née à Trappes, en fait. Et donc, bah, Trappes, voilà, c'est, on va dire, un peu la Tessie, quoi. Et donc, bah, voilà, je voyais tous les jours, même dans mon école ou même dans le quartier de mes grands-parents ou quoi que ce soit, je voyais tout le temps voilà, des personnes noires, des personnes voilà, d'origine maghrébine, arabe, voilà. Et ça ne me choquait pas spécialement, mais c'est justement quand j'ai commencé un peu, enfin, quand on a déménagé à Vendôme en 2004, que là, justement, il y a eu ce truc du... Comment ça, c'est pas normal? Il y a des choses qui sont pas normales, en fait. Genre, moi, par exemple, j'étais beaucoup harcelée, principalement à cause de mes cheveux, parce que voilà, ils étaient bouclés, frisés, enfin, ils le sont toujours. Et c'était bizarre, mais je comprenais pas pourquoi. Et du coup, c'est pour ça, voilà, que moi, ça m'a fait très bizarre, justement, d'arriver ici, où c'était, bon, on va dire, principalement des blancs, quoi, parce que c'était dans une école où il y avait très peu de
mixité.
C'est ça, il y avait juste. On avait une seule fille noire dans ma classe. Et après, ouais, c'était vraiment, on va dire, des petits franchouillards. Et après, arrivé au collège, bah là, justement, c'était de nouveau. Il y avait beaucoup, voilà, les Turcs, Maghrébins, les Noirs, etc. Enfin, j'aime pas forcément dire Noirs, parce que ça met tout dans la même case, mais je pourrais pas dire leurs origines directement, quoi. Mais enfin, voilà, les pays de naissance, quoi. Ou, bref. Et après, voilà, c'est un peu plus en grandissant, ou même parfois entendant mon père aussi, parce que, bon, mon père, lui, c'est pas... voilà. comment qu'ils pouvaient parler des personnes de couleur ou quoi que ce soit, ou même juste rire un petit peu de la famille de ma mère, où j'étais là genre, pourquoi, c'est pas normal en fait de rire de ça, enfin genre, on peut en rire certes, on peut rire de tout, mais en même temps il faut savoir comment on en rit et avec qui, et là le fait que ce soit avec la famille de ma mère, c'est un peu bizarre quoi. Et c'est vrai que ça a toujours été un peu compliqué. Après, mon père, on va dire, il coche toutes les cases de la beaufitude, hein, raciste, sexiste, misogyne, enfin bref, tous les trucs fantastiques pour un père sain dans une famille saine. Et du coup, oui, c'est pour ça que moi, personnellement, ça m'a toujours fait un peu bizarre de voir tout ce qui est racisme, etc. Parce que même, par exemple, quand on entend de tout ce qui est le grand remplacement ou je sais pas quoi, moi, je suis toujours là, mais les gens, enfin, on est tous humains, donc... On va se faire remplacer par des humains, c'est pas grave en fait. Au final, l'espèce continue de perdurer, c'est juste les couleurs qui changent, c'est pas grave en soi, hein. L'humain est toujours là. Hein. Et non, il y a des gens, c'est bizarre. Donc voilà.
Merci Arel Shaimar.
Alors du coup, moi je vais parler sur le fait comment j'ai un peu découvert le racisme. Moi je sais que j'ai toujours grandi... moi, par rapport à mes origines, je suis d'origine maghrébine et je connais mon père biologique et arabe. Et j'ai toujours grandi dans des écoles où il y avait toujours des personnes qui étaient de couleur noire ou métisse. Et moi, ça ne me choquait pas. C'est au moment où je suis arrivée dans la nouvelle case où on grandit en pleine puberté. La période du collège où j'ai découvert le moment où j'ai vu beaucoup de jeunes ont été ouverts en disant « Oh, mais t'es noire, je n'accepte pas, retourne dans ton pays. » Mais comment peut-on dire une telle chose ? Et moi, je sais que j'ai beaucoup défendu mes amis qui sont d'origine de ce côté-là, même asiatique ou autre. J'ai toujours défendu mes amis parce que je n'étais jamais d'accord sur ça. Et c'est des personnes humaines. Enfin, on est tous humains, on a des sentiments. Pourquoi être raciste pour une couleur ? Et je sais pas. Enfin, je vais prendre une comparaison complètement idiote. Mais la comparaison, par exemple, on va voir un chat noir, on va dire, mais c'est mignon. Alors, pour une personne qui est noire, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire, retourne dans ton pays. Mais la personne est française, la personne est née dans le pays France. Enfin, pourquoi ramener ça ? Parce que tu es d'origine noire ? Non, tu es née en France. Donc, c'est juste une couleur de peau en fonction des gènes des parents ou de d'autres origines. Pour moi, j'aimerais que le racisme n'existerait pas. Et ça serait beaucoup mieux et autant mieux quoi au jour d'aujourd'hui.
Petite anecdote, dans les foyers d'adoption de chats, les chats noirs sont 30% moins adoptés que les autres chats. Comme quoi.
Oui. Ouais, mais bon.
Je laisse ça là. Parce que justement, à cause de l'histoire, on en revient à l'histoire, ils étaient perçus comme des chats accompagnant les sorcières. Et donc des chats, ouais. Voilà. La question de la noirceur, elle est toujours aussi très intéressante, même à travers le règne animal. C'est perçu comme quelque chose de fondamentalement immoral.
Ouais, voilà. Pour le côté maudit, on va dire.
Exactement. Et ça nous dit malheur, beaucoup, ouais. Justement, sur la question même du racisme. Et je voulais juste rajouter que, à travers vos témoignages et ce que vous dites, c'est très important d'avoir ces discours-là. Mais il faut comprendre que, aussi, le racisme, ce n'est pas seulement des personnes qui sont méchantes ou qui ont des propos qui font mal. Le racisme, c'est au-delà même de la morale, c'est la manière dont notre système, notre société va favoriser certaines personnes et pas d'autres. Au-delà même des sentiments d'une personne qui va insulter une autre, c'est pourquoi si moi j'envoie un CV avec ma photo à compétences égales, en général, je vais avoir moins de réponses, moins d'entretiens professionnels qu'une personne avec les mêmes compétences que moi, le même parcours. Mmh. C'est l'accès au logement, c'est l'accès au médical, à la santé. Pourquoi il y a des personnes qui sont discriminées, dont on n'écoute pas la douleur et dont on dit qu'elles exagèrent ? Parce que, une fois de plus, l'inconscient collectif, qui passe par l'humour, par les films, par les chansons, par tout ce qu'on lit, ce dont on est imprégné. Et Par exemple, et je vais finir là-dessus, tout à l'heure, on a assisté à une émission où on a lu nos textes. Les personnes qui ont été interviewées, à mon sens, ne représentaient pas la majorité des personnes qui ont lu le texte. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand le journal télévisé va projeter l'émission, on parle de lecture. Qui on voit? Ben, on voit les mêmes personnes, les personnes blanches qui lisent. On ne voit pas, par exemple, un homme qui lit. Parce que dans la tête, on a, c'est toujours la femme qui lit beaucoup plus. Vous voyez? Il n'y a pas de personne, noire, il n'y a pas de personne racisée. Et en fait, c'est comme ça qu'on se construit les discours et les histoires et qu'on renforce les stéréotypes. Mmh. Et donc, à nous, les créatifs, les créatives, à nous qui faisons des films, à nous qui pouvons inviter des gens à la radio, de déconstruire ces stéréotypes-là en montrant, mais regardez la pluralité des gens. Oui, oui. Que les personnes soient françaises ou pas, d'ailleurs. C'est pas parce que t'es pas français qu'on peut, tu peux subir du racisme, justement. Ouais, ouais, ouais. Donc ça dit bien que c'est pas seulement la citoyenneté. C'est quelque chose qui remonte à bien plus loin que ça et dont il va falloir aller creuser. Et c'est difficile de faire ce travail-là, mais on est là pour ça.
Quand on lit ton livre Douce, on a l'impression de vivre dans un pays qui fait semblant de pas voir les couleurs, où, comme je le disais tout à l'heure, on enlève le mot race de la Constitution, où on essaie de lisser et de faire en sorte de vouloir croire qu'on est tous égaux. Et toi, tu inventes un terme, alors je pense que c'est toi qui l'inventes, que tu ne le reprends pas de quelqu'un. C'est la noirité, la thématique de la noirité. C'est la fierté noire, c'est voir le positif dans l'identité noire. Est-ce que tu peux nous en parler?
Oui, bien sûr. Oui, et en fait, cette question, déjà, pour revenir sur la question et le terme de race, qui est évidemment, on ne parle pas de race biologique parce qu'il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine, mais il faut bien comprendre que la race, elle a été construite socialement quand il y a des pseudo-scientifiques qui ont décrété qu'apparemment, il y avait des personnes qui étaient supérieures à d'autres. Ensuite, ça a été aboli, mais c'est resté dans la tête des gens. Donc, il y a eu cette déshumanisation des personnes noires, des personnes arabes, asiatiques, ensuite la colonisation. Enfin voilà, c'est tout un pan de l'histoire, mais ça nous reste. Et donc, quand on parle, nous, de race, comme les militants, etc., on parle bien sûr de race sociale. Et donc, reconnaître que la France reconnaisse qu'il y a des différences, qu'il y a des personnes qui viennent d'origines différentes, de races sociales différentes, c'est en fait, au final, accepter qu'il y a des personnes qui sont privilégiées. Et cette question du privilège, elle est tellement en tension en France, notamment pour les personnes blanches, parce que quand on va parler de privilège, les personnes vont dire « Mais regardez, mais moi, je suis précaire, je suis pauvre. Regardez, par exemple, un Lilian Thuram, c'est un homme noir, mais il est bien plus privilégié que moi. » Et notre travail, c'est de montrer que, certes, en termes de classe, il y a un écart. En revanche, si Lilian Thuram avait été aussi pauvre que vous, il aurait eu 3-4 fois plus de difficultés à cause de sa couleur de peau. Le privilège ne vous donne pas quelque chose en plus, mais vous permet de ne pas souffrir plus, de ne pas avoir des barrières dans votre vie. Et donc, c'est un travail, c'est un chantier qui est immense pour la France. Et donc, en partant de là, au fur et à mesure du livre, quand j'arrive au dernier chapitre, en ayant parlé de la charge raciale, de tout ça, je me dis, comment nous penser? Est-ce qu'on adopte des termes qui parlent de conditions noires, par exemple? Donc je me dis, mais moi, ma couleur de peau, l'identité que j'ai, que je n'ai pas choisie, mais dont je n'ai pas le choix, en fait, que d'être avec cette identité-là, de ma couleur noire, elle n'est pas conditionnée, en fait. Je ne veux pas qu'elle soit conditionnée, c'est un terme sociologique, mais au-delà de la sociologie, moi, comment je m'appelle, en fait? Et donc, il y a toute la question de la traduction, parce qu'en anglais, on parle de blackness, donc on peut traduire ça par noirceur ou négritude, avec Aimé Césaire et Senghor, etc., les sœurs Nardal. Mais il y a aussi, je trouve, en tout cas, ce terme de noirité, que je n'ai pas inventé, que je trouve sous les mots de Mam Fatou Niang, qui est une chercheuse franco-sénégalaise qui travaille aux États-Unis, qui en parle très joliment, qui parle de qualité de l'être. La noirité, c'est au-delà de la quantité, hein, c'est la qualité, c'est la singularité. Et en gros, ce que je défends dans le livre, c'est d'avoir deux polarités pour combattre cette charge raciale, pour combattre le racisme. Avoir une polarité qui va être matérielle, c'est-à-dire comment on fait pour sortir de nos conditions matérielles d'existence, de nous sortir du poids du racisme, de manière sociologique, avec tous les outils militants qu'on connaît, voilà, les manifestations, etc., etc. Et aussi nous reconnecter à la part la plus intime, parce qu'on nous a enlevé le droit de dire « je », de nous penser singuliers. Mais ça fait peur dans le milieu militant de, voyez, de se reconnecter au soi. À tout ça, c'est des gros à l'individualité, parce qu'on confond ça avec de l'individualisme. Et en même temps, on est dans des sociétés qui nous poussent à l'individualisme. Et c'est normal. On est fait d'avoir peur. Et voilà, moi je me dis, bah, pour des personnes à qui qu'on a déshumanisé, c'est bien aussi de s'arracher ce jeu-là, de dire « je », mais de dire « je » en commun. Et donc c'est toute la question de la noirité. Moi, quand je parle et que j'écris et que je signe mes recueils, quand je signe ces recueils-là, ce n'est jamais pour dire « voici qui je suis » seulement. C'est que je sais très bien que mon « je », il est tissé avec les personnes qui sont venues avant moi et qui viendront après moi. Des personnes noires, des personnes afrodescendantes et des personnes plus ou moins liées à la cause. Et donc, c'est important de dire « je » pour qu'en face, on ne soit plus seulement des statistiques, mais des personnes bien, bien particulières, bien singulières.
On va faire une pause musicale. Une chanteuse dont tu parles dans le livre, Loose and the Yakuza. On écoute le morceau Dilemme qui résonne beaucoup avec notre thématique du jour. Et puis il y a aussi le titre Autodéfense. J'ai hésité entre les deux, mais les Dilemmes. Et on se retrouve juste après.
Au plus j'ai la haine, au plus ils me font de la peine. Ce n'est pas un drame si je ne fais plus la fête. Nous c'est sereine, nous fais-tu juste la guerre. La vie est une chienne qu'il faut tenir en laisse. Vivre me hante, tout ce qui m'entoure m'a rendu méchante. Si je rate, je recommence. Quand je suis triste, je chante. Ne jamais tout donner de moi. Dans ce monde, c'est le diable qui est roi. Elles me disent que j'ai la poisse. La gabarre devient loose, ça part.
Seul, seul, seul.
Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na. Si jamais je freine et que je ne fais plus de scène, laissez-moi à l'arrière pour qu'à la source je me baigne. Ma blessure saigne et le sang monte à la tête. Je reste la même et ce quoi qu'il advienne. Au plus j'ai la haine, au plus ils me font de la peine. Ma peau n'est pas noire, elle est couleur ébène. Où es-tu sereine, où fais-tu juste la guerre. Tu n'es pas parfaite, ton erreur reste humaine.
Seul, 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 je veux être seul.
Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na 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 na. Au plus j'avance, au plus je les devance. Tant pis si tu ne suis pas la cadence. Je ne sais même plus sur quel pied je danse. Encore un acte trop frais, ça dérange. La mélodie me berce et me ronge. Chaque mot me perce et donc je plonge dans les profondeurs de mes songes. Je nage, me noie dans la pénombre. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na 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 na.
Seul, seul, seul.
seul, je veux être seul.
Vous êtes toujours à l'écoute de Studio Zef sur le 91.1 à Blois et le 91.7 à Vendôme. On parle de charge raciale ce soir avec Douce Dibondo, écrivaine, et puis l'équipe du FJT Habitat Jeune au cœur de Vendôme avec Régis, Erel et Shaima qui participent aux ateliers d'écriture proposés par Douce depuis plusieurs semaines au FJT. On a écouté Loose and the Yakuza, le morceau Dilemme. Pour continuer cette émission, Shaima et Rel, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment se sont passés les ateliers? Ils sont toujours en cours, mais qu'est-ce que vous avez fait pour le moment? Douce nous a dit tout à l'heure que l'objectif final, c'était un fanzine. Mais voilà, comment ça s'est déroulé? Qu'est-ce que Douce vous a proposé et qu'est-ce que vous avez fait?
En fait, on s'est retrouvés et puis on discutait un peu au départ... Là, expliquer le plan un peu dans le sens où c'était... où c'était... comment on voyait un peu le futur, donc ça pouvait concerner plein de choses, ou enfin, des choses qui nous tenaient à cœur ou quoi que ce soit. Et après, voilà, on pouvait un peu échanger avec elle, ou même avec nos autres camarades, sur nos idées, ou comment qu'on voulait essayer de mettre les choses, voilà, après, donc en fait, c'est faire un texte et puis peut-être essayer soit d'y faire des découpages, du dessin, enfin, selon comment on est capable de faire les choses, notre créativité, tout et tout. Et voilà.
On t'a parlé de quoi? C'était quoi ton texte à toi?
Mon thème, c'est le système carcéral, un peu. Enfin, voilà, dans le sens où ce serait, on va dire, plus punitive. Mon idée, un peu, dans le sens où... voilà, remettre la peine de mort, mais sous d'autres angles que juste la personne est mauvaise, donc on la tue, mais plus vous êtes accusé d'un crime et, et du coup vous avez le choix soit entre directement exécuté, enfin voilà, être euthanasié, soit sinon devenir un cobaye pour la science, soit sinon être dans des arènes un peu comme des combats de gladiateurs pour choisir sa mort à soi en fait, ou continuer de survivre en tuant d'autres gens. du coup, voilà, et c'est vrai que je trouve ça assez sympa justement de pouvoir échanger avec, avec Douce et tout, parce que c'est vrai que généralement, les idées qu'on peut avoir, enfin, tous, on va dire, c'est. Avec les adultes, c'est compliqué d'en parler en règle générale. Enfin, après, je dis avec les adultes, j'ai 25 ans, donc logiquement, je suis une adulte, mais j'arrive pas à me catégoriser chez les adultes. Mais c'est très rare justement quand on est avec, avec des adultes, du coup, où on peut parler un petit peu de toutes nos idées, qu'elles soient utopiques, utopistes, dystopistes. Si c'est dit. Ou merci. Ou genre voilà, juste notre imagination, les choses qu'on peut entrevoir dans notre tête, ou juste le fait qu'on ait besoin de se libérer de quelque chose. Et c'est vrai que justement les ateliers déjà de base, Régis en lui-même c'est quelqu'un qui est très ouvert d'esprit, très patient et tout et tout. Et puis bah le fait que Douce soit avec nous, déjà ça fait, j'irais quand même un peu plus plaisir, parce que c'est vrai que bon, c'est une femme et c'est plus simple quand même, je trouve, d'être de pouvoir discuter de tout ça, voilà, avec avec une femme. Et du coup, voilà, c'est vrai qu'elle est très ouverte, très... Voilà, il n'y a pas de mauvaises idées, il n'y a que des bonnes idées. Et justement, avec son approche créative et tout, bah, du coup, ça fait que c'est... On ne se sent pas bête quand on fait les choses, en fait, avec elle. Ni monstre ou quoi que ce soit.
Non, je suis hyper touchée. Merci, Erel. Merci beaucoup.
Shaima et Régis, vous voulez réagir?
Bien, je crois que, dans un premier temps, j'aime bien aussi quand les résidents arrivent avec un petit peu d'appréhension ou de peur, en disant « mais où est-ce qu'on va ? C'est quoi cette proposition ?» Et qu'au final, elle puisse intriguer même celles et ceux qui n'ont pas le loisir ou le temps ou l'envie de participer. Mais ça crée quelque chose, ça crée des questions, ça pose des questions. Et à partir de là, ensemble, on essaie de les franchir, on essaie de les traduire, on essaie de les écrire. Et on laissera une trace forcément indélébile de tout ça, l'émission déjà d'aujourd'hui, mais aussi tout ce qu'on a emmagasiné, ces cinq passages. Et puis cette envie de se dépasser au bout d'un moment, de dire voilà, je maintiens le cap, j'ai mon idée en tête, je mets des mots, je corrige, je griffouille, je froisse mon papier. On l'a vu en cours avec les élèves volontaires du CFA, où c'est quoi un homme ? C'est pas un mec, voilà, des formules flash comme ça, qui veulent bien dire ce qu'elles veulent dire. Et surtout, ça ouvre débat, ça ouvre la question. Et c'est ça, c'était ça mon propos essentiel.
Dans ton avant-propos, et je te donne la parole après, Shaïma, dans l'avant-propos de ton livre Douce, tu écris « J'écris pour moi qui ai coupé trop longtemps la mélodité de mon intériorité ». La mélodité, je trouvais ça très joli comme mot. Et du coup, ça me faisait penser à ce que tu racontais, Rel, dans le fait de se livrer et trouver la façon de pouvoir créer, sortir de soi un peu et prendre du recul. Shaïma.
Alors du coup, je vais revenir un petit peu sur le côté où Ariel a beaucoup parlé. C'est vrai qu'on est beaucoup ouvert auprès de Régis et Douce et ça fait énormément plaisir, sachant qu'on a quand même au foyer, on a le côté sociaux pour pouvoir parler de divers sujets. Mais ce qui est beaucoup plus cool et chouette, c'est le côté jeu. Ça nous fait énormément poser des questions, ça nous aide, on découvre beaucoup de choses et franchement bah je trouve ça vraiment cool et faut que ça continue et je trouve ça vraiment au top quoi.
C'est vrai que
de rien.
Au début quand j'expliquais au début d'année 2024 la possible arrivée de 12 dans nos murs, certains me disaient quoi, une écrivaine chez nous, waouh. Enfin, ça paraissait un peu probable, impossible. Et rien n'est impossible, on a franchi des étapes. Et elle est vraiment chez nous. Et plusieurs mesurent en effet le travail qu'elle peut faire en dehors de ce qu'elle nous propose dans ses ateliers. Et ça, ils en ont pris conscience. Beaucoup la suivent sur ses réseaux sociaux, ça j'en suis sûr.
La pression.
Quand je vais la chercher à la gare, je lui dis « tu nous as manqué ». Mais ce n'est pas un nous majesté, c'est vraiment un nous collectif. Je suis le porte-parole auprès de Douce, des ressentis de nos jeunes.
Dernière question pour toi, Douce. Dans ton livre, c'est présenté un peu comme un guide de survie pour les personnes racisées. Là, autour de la table, on est 4 personnes blanches. Alors, j'avais envie de te poser la question de comment on peut changer le regard de la blanchité et qu'est-ce qu'on peut faire, sur quels axes, aspects on peut changer les choses.
Alors déjà, je conseillerais 2 ouvrages à lire. Le premier, c'est celui d'Estelle Depris, qui parle du mécanisme du privilège blanc et comment en fait décortiquer ce que c'est que la blanchité au final. Et ce livre est hyper didactique, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement de la théorie. Elle va le mettre en situation en disant, voilà, vous êtes une personne blanche, il y a une personne racisée qui vous dit que ce que vous avez dit, c'est raciste. Voilà en général comment vous réagissez. Soit vous allez vous offenser, vous allez commencer à soit la silencier en disant que ce n'est pas vrai, soit vous allez commencer à pleurer, etc. Parce que vous avez l'impression que... Vous voyez, et vraiment, elle va mettre des situations bien précises de ce que c'est que cette mécanique. Et je trouvais ça hyper important parce que je l'ai relu aussi son texte et à chaque fois je le cite pour montrer à quel point la charge raciale, on la vit à cause de cette blanchité-là, à cause de ce privilège. Et le deuxième livre que je trouve tout aussi passionnant, c'est celui de la neuroscientifique Sama Karaki, « L'empathie est politique ». Donc vous voyez déjà où je veux en venir avec ces 2 ouvrages. Il ne suffit pas seulement de se dire empathique, sensible à la cause du racisme, à la cause du sexisme, à la cause du validisme, n'importe quelle cause. Il faut être activement anti-raciste, anti-sexisme, voyez. Et comment on est activement? Eh bien, en étant curieux de l'autre. On ne peut pas comprendre l'autre si justement la question de la curiosité, si on ne rend pas glamour, si j'ose dire, ces luttes-là, si on ne rend pas moralement important le fait de se dire « bah non, mais... moi, je trouve ça super cool de défendre ces causes. Moi, je trouve ça cool de... ok, très bien, c'est difficile parfois de lire des thématiques et de me penser comme personne blanche, de me penser comme un homme, de me penser comme une personne qui est valide. Mais c'est là, c'est dans ces moments-là, dans ces angles morts qu'on grandit. Et donc, prendre le temps. Et ce n'est pas forcément tout le temps par les livres. Est-ce que vous avez des séries où il y a des personnes qui sont... les personnages principaux sont des personnes noires? Ou des femmes? Il y en a un peu plus maintenant? Est-ce que dans vos livres, dans votre imaginaire, dans votre imagination, est-ce que vous arrivez à convoquer des histoires qui ne sont pas stéréotypées?
Et dans notre entourage aussi.
Et dans notre entourage. Mmh. Et justement, c'est parce qu'on a un entourage en général qu'on arrive à se décentrer. Mais pour arriver à cet entourage-là, les personnes en général, les personnes racisées, dont moi, hein, moi j'ai de plus en plus de mal à être en amitié profonde, sincère avec des personnes blanches, parce qu'il y a toujours un moment où la question du racisme elle ressort et où je préfère me taire, parce que je sais que ça peut coûter notre amitié si on commence à déterrer. Donc le travail doit se faire des deux côtés. Et parce qu'on n'est pas parfait, il y aura des erreurs, il y aura des choses qui vont se passer, et ben on pourra être apte à accueillir et à se remettre en question. Mais le travail en amont, il est phénoménal. Mais pourtant, on est en 2025. On a tous les réseaux sociaux, on a toutes les plateformes de recherche. Donc la question de l'ignorance ne peut plus être une excuse en 2025, à mon sens.
Tu as parlé de livres, on peut recommander aussi ton podcast Extimité que tu as créé avec Anthony Vincent, qui est la série écoutable sur toutes les plateformes d'écoute, dans lequel vous donnez la parole aux personnes minorisées à la jonction de plusieurs oppressions, racisme, misogynie, handiphobie, homophobie, transphobie, et un autre format de radio aussi qui est très intéressant à écouter.
Tout à fait.
Est-ce que vous avez un mot de la fin pour terminer cette émission?
Merci.
Oui, c'est vrai que c'est assez explicite, hein, merci. Enfin, ça dit tout. Tant par la présence ou le temps qu'on accorde à chacun, c'est vrai que voilà, c'est important, voilà, tout ça. Enfin, genre, je sais pas comment expliquer, mais voilà, on est tous unis, on est tous là à expliquer, enfin, à débattre, enfin, pas forcément débattre, mais genre...
À échanger.
Voilà, c'est ça que je voulais dire, merci. Là, échanger sur tout ça, et ouais, non, si, c'est vrai que c'est cool.
Et peut-être on peut se quitter avec un de tes poèmes, Douce. Est-ce que tu pourrais nous lire, alors, soit celui que tu as lu tout à l'heure ou un autre?
Non, je vais en lire un autre. J'aime bien celui-là parce qu'il donne beaucoup d'espoir. Oui. À nous. À vous le centre décrié comme la marge. À vous les soleils fustigés anti-lumière. À vous les énervés silenciers. Vos races des éclipses de vérité. L'existant est enfin nu de leurs mensonges. À vous les cœurs mous d'espoir, messagères stellaires de la mondialité. Une ère en révolution. Les trains des révoltés sont inarrêtables. À nous, Asata ordonne, poursuivez la tradition par les contes, les poèmes et la mémoire. À nous de poursuivre la liberté, à jamais complices de son complot, en marchant dans les grèves, dans les tribunes et les champs. J'acquiesce avec gravité et j'ajoute, l'histoire n'est pas linéaire. Regardez comme sa spirale fait péter les serrures. À nous, l'univers en dedans de nous. À nous, les horizons illimités. Les volcans et l'incandescence, à nous, le feu et la terre.
Merci beaucoup. Merci. Et puis, bon retour à Vendôme.
Merci bien.
C'est la fin de cette lorgnette. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. En attendant, restez sur Studio Zef. Tout de suite, c'est le journal de bord d'un élu local qui s'intéresse à un tiers-lieu blésois aujourd'hui. Et juste après, c'est la Roxette List. À bientôt.
Journal de bord d'un élu local, c'est l'épisode 137. Et il s'appelle le 145, un tiers-lieu de l'alimentation en bois. Oui, le 145, c'est le nom de ce tiers-lieu. Et c'est le deuxième épisode avec notre invité, Arnaud Moyen. C'est parti!
Bonjour Nicolas.
Salut Gaël.
Nicolas, aujourd'hui nous recevons à nouveau Arnaud Moyen et on a vraiment beaucoup de choses de le retrouver. Bonjour Arnaud, merci. Et
bonjour
Arnaud,
les gars. Ouais.
Donc Arnaud, tu es chef de projet à Biosolidaire, ouais, qui héberge les Jardins de Cocagne.
Exactement.
C'est une association de réinsertion à Blois, ici, dans le quartier Vienne. Et tu t'occupes plus particulièrement du 145, c'est un tiers-lieu autour de l'alimentation. On a fini l'épisode précédent, on a parlé plein de choses pendant l'épisode précédent, mais on a fini sur l'idée que c'était intéressant dans un tiers-lieu, un endroit comme celui que représente le 145, d'amener les personnes en réinsertion, à avoir autre chose, à amener de la culture, et par exemple. Et Nico, tu voulais réagir là-dessus. Tu voulais recommencer là-dessus, vas-y.
On voit beaucoup dans le social ce besoin de lieux pour cuisiner. Nous, on a présenté un projet qui est Parmentier, dont tu as parlé tout à l'heure, sur l'accès aux légumes frais et de qualité dans les systèmes d'aide alimentaire et d'épicerie sociale. Et il y a un besoin aussi d'apprendre parfois à cuisiner les légumes qu'on propose. Mm-hmm. C'est quelque chose qui vient souvent. Les gens qui sont en réinsertion par les jardins de cocagne biosolidaires, ils vont produire des légumes toute la journée, les mettre en sac pour des gens, mais eux-mêmes ne les mangent pas nécessairement. Et donc c'est aussi donner du sens à leur travail que d'apprendre à cuisiner ces légumes, de pouvoir eux-mêmes en bénéficier pour un prix attractif et pour aussi mieux manger, avoir une qualité de vie. Ça donne du sens au travail, quoi, en allant au bout de l'étape de transformation. Et ça, c'est vrai que depuis que tu es là, je sens beaucoup ce lien que tu fais entre la question alimentaire et la question sociale. Et puis sur le développement, peut-être tu vas nous raconter, mais on a eu un moment où on a aussi rencontré d'autres professionnels de l'alimentation et qui nous ont dit, bah, nous, la partie qui nous intéresse le plus aussi, c'est la cuisine.
Ah ouais, c'est vrai.
Masato, Alissa...
Masato qui a cette idée de pouvoir aussi, dans la même optique que ce que tu viens de dire, pouvoir faciliter la prépa... Comment t'appréhendes...
Donner
des cours de cuisine autour de ces légumes
asiatiques.
Utiliser cet espace. On a aussi des demandes pour... alors, de salle de réunion, mais du bureau aussi à tenir. Là, j'ai rencontré la semaine dernière une coopérative autour de la réparation cycle qui serait sans doute intéressé pour s'installer sur le lieu. Donc ça, c'est chouette aussi.
Tu pars sur les autres usages. Mais en tout cas, cette cuisine, c'est vrai qu'il y avait Mélanie aussi qui s'est installée, qui était intéressée, qui fait des
Mélanie
tisanes. Mélanie Bournaise, c'est ça? Non. Mémé dans les orties.
Ouais, c'est ça. Je suis nul en nom de famille. Le mien, je l'oublie.
Mémé dans les orties. En Vienne. Elle, ça l'intéresse de pouvoir justement former à ces questions-là, apprendre les plantes aromatiques et médicinales. Nina Fenateux, qui fait de la cuisine lacto-fermentée, ça l'intéressait de pouvoir donner des cours aussi pour faire ça. Et en fait, il existe en Loire-et-Cher déjà une ferme qui marche très bien, où les gens vont payer un stage pour se faire un cours de cuisine et puis apprendre des trucs qu'ils auraient plus. Et puis de plus en plus, on offre moins des cadeaux qui vont être des objets, mais plus des expériences. Clairement, l'apprentissage à la cuisine, c'est une possibilité. Donc il y a des demandes sur le territoire. Et après, il y a tout ce que tu disais, c'est-à-dire accueillir aussi des gens qui ont un lien avec l'alimentation, qui sont souvent dispatchés sur le territoire, qui puissent avoir des bureaux sur le même lieu, ce qui facilite des échanges, des dialogues avec une salle de réunion commune.
C'est ça.
Vous aviez pensé à plusieurs personnes.
Carrément. Mais il y a vraiment aussi quelque chose qui ressort, c'est la dimension servicielle, là, tu disais, là, les expériences, mais nous, on porte aussi, tu sais, paniers solidaires, en fait une tarification différenciée pour nos paniers de légumes et qui donne accès de fait aux ateliers cuisine qu'on va mener dans les centres sociaux au 145, mais voilà, on fait aussi tiers-lieu à l'extérieur, et là il y a tout un maillage partenarial des acteurs dont je parlais tout à l'heure, là, du social, du socio-culturel.
La maison de Bégon qui a envie aussi de porter ce type de projet.
On a fait une première expérience là de 5 ateliers en soirée dans la cuisine. C'était incroyable à être une vingtaine avec des ukulélés, des guitares en train de cuisiner du mafé sans poulet avec des feuilles de blette et du pané. Donc c'était incroyable. On a préparé jusqu'à ce qu'on prépare, qu'on contribue à la préparation d'un grand buffet à la Maison de Bégon le 16 novembre. C'était vraiment un super projet, effectivement. Il y a la volonté de le reconduire avec la SLD l'an prochain.
C'est quoi la SLD ?
La SLD, alors c'est un acronyme, figure-toi.
Oui, j'aime
pas ça, moi. La SLD, c'est une énorme association et qui, entre autres, accueille des personnes qui sont sous protection internationale ou alors en processus de pouvoir l'être. Voilà. Okay. Et qui leur propose déjà des lieux d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement au quotidien.
On avait accueilli le collectif Pas d'enfants à la rue. Ils travaillent beaucoup avec la SLD justement pour ces questions de réussir à à s'intégrer et à arriver sur le territoire.
Et là, le point de départ, en fait, c'est des personnes qui sont depuis 2-3 mois en France et qui ont fait le constat qu'elles ne connaissaient même pas le nom des légumes, en fait, de saison, tu vois. Et donc, de dire, la bouffe, c'est quand même un moyen de se rencontrer. Et si nous, on a envie de s'intégrer en France, et déjà, là, sur nommer les légumes, on galère. Donc,
c'est vrai que si j'avais été sur un autre continent et que j'arrivais et qu'on me donnait des panais ou des betteraves rouges, je pense que tu sais pas quoi en faire, quoi.
Des fois, je suis un peu en impasse. j'ai jamais croisé une blette de ma vie. Je comprends du coup le décalage.
C'est ça. Et du coup, c'était assez chouette parce qu'on a fait toute une rencontre, je te dis, sur ça représente une vingtaine d'heures d'ateliers ensemble. Donc c'est peu, mais en même temps c'est beaucoup. Ça permet quand même de se connaître. Et puis penser à des modes opératoires autour de la cuisine avec ces légumes, en convoquant nos cultures alimentaires. Respectives et dans toute leur singularité, et pour créer quelque chose qu'on a partagé, où on repensait les schémas de plats. On a fait des verrines de mafé, par exemple, tu vois, c'était rigolo. Et à chaque fois, en goûtant, et on a commencé par un gros jam, on est allé dans la boutique, les légumes que vous prenez, trois légumes que vous connaissez, trois légumes que vous connaissez pas, chacun, on était 15, on les met au centre de la table, on a cuisiné 100 recettes à partir de là, et du coup, on avait des grosses assiettes avec, 12 ou 15 prépas, c'était assez fou. C'était vraiment chouette, vraiment chouette. Donc voilà, c'est ça qui se passe sur ce lieu. Donc
c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup autour de la cuisine, de l'espace cuisine, le magasin de vente directe. Et donc, tu le disais, dans la suite, les envies, c'est les bureaux. On sait que BioCentre était intéressé, pourquoi pas, pour mettre ses bureaux sur le lieu, avoir un lieu de coworking, un peu de travail partagé, l'envie d'un, pourquoi pas un jour, un restaurant sur place et des ateliers d'artistes. Et puis, un grand extérieur aussi, qui peut être un lieu d'expérimentation.
Donc ça, c'est un truc qu'on veut tester l'an prochain. On a déjà une date qui est prévue, alors avec le Château d'Eau, dans le cadre de leur programmation de l'effet bœuf.
Là, c'est tester quoi, tu dis ? C'est un truc qu'on veut tester
culturel.
Un peu resto et événement culturel ?
Ouais, du coup, l'idée, c'est de pouvoir ouvrir une cantine de quartier à partir du printemps. Ça nous permettra aussi, on est en train de voir un peu les différentes solutions par rapport aux normes de préparation, etc. Bon, je vous épargne ça, mais en tout cas là on avait un projet. L'idée, c'est qu'en fait on pense comment imbriquer les différents blocs de valeur de tout ce qu'on fait, quoi, plutôt que d'avoir une chaîne de choses qui succèdent et puis tu dois payer à chaque fois pour accéder à l'autre, tu vois.
Attends, j'ai pas compris.
Moi non plus, j'ai pas compris ce que j'ai dit. On a un projet avec le Greta, Centre Val de Loire.
Greta.
C'est ça. On l'a fait venir du coup pour une masterclass sur comment sourire. Le Greta, c'est pareil, c'est un acronyme, c'est un organisme de formation pour adultes. Voilà, formation continue. Il y a une partie du Greta qui est basée au, parce que c'est des organismes de formation qui sont basés dans des lieux d'éducation.
Oui. Ils sont au lycée Augustin Thierry.
Exactement, c'est ça. Donc ils sont dans des lycées. Ouais. Et là, il y en a un au lycée hôtelier. Ouais. Très loin de.
Pas très loin de là où on est.
On peut pas trop révéler. Non plus, faut pas abuser. Et donc, entre autres, ils proposent un CAP commis de cuisine. Et dans le cadre de ce CAP commis de cuisine, c'est quelque chose qu'ils ont pu tester avec la filerie, avec les greniers de Vineuil. Et puis, comme on bosse avec la filerie et les greniers de Vineuil, qui sont aussi deux tiers lieux du département, on a été amené à rencontrer le Greta. Ils sont venus pour visiter les jardins. On a fait le lieu, on a fait un escape game, ils ont eu la cuisine. Et puis, là, on a intégré dans le CAP de cuisine une visite dans les deux premières semaines du CAP, une visite sur le jardin, une cueillette. Sur le jardin, donc qui implique les salariés et les collègues maraîchers, et puis l'escape game, et derrière, tous les mois, on leur amène des légumes de récup, c'est-à-dire des légumes qui sont ou des écarts de tri au moment de la récolte, ou alors des invendus, et nous, il y a le risque que ça se transforme en gaspillage alimentaire, quoi. Donc ça parte au compost, on veut pas ça. Dans la mesure du possible. Et donc là.
Ils les récupèrent et doivent les cuisiner.
Et ouais, et en même temps, on leur donne des bocaux, ils les cuisinent et ils nous rendent les bocaux cuisinés. Et ça, c'est stérilisé. Donc c'est top, dans les meilleures conditions, tu vois. Et l'idée, c'est de pouvoir servir. On voit beaucoup ça. Les jardins de la Voie romaine font ça, par exemple, à l'auberge des Trois Écluses, là, à côté de Loris, qui est un jardin de cocagne aussi dans le Loiret, qui brasse une très bonne bière.
Digression sur digression.
C'est incroyable. C'est incroyable.
Attention,
il va replaquer. On avait dit pas de trop bruit comme ça. Et donc l'idée, pour revenir sur cette idée de cantine de quartier, on serait vraiment dans cet esprit-là, un lieu de restauration sociale et un lieu de rencontre, et donc de pouvoir servir
les choses qui sont été faites avec les étudiants du Greta.
Tu ouvres ton bocal, mais il y a d'autres débouchés aussi pour ce qui a été fait avec les étudiants du Greta dans l'aide alimentaire.
Et notamment, le premier événement, ça serait un moment cantine et événement culturel avec le Château d'Eau et le Greta comme partenaire.
Alors, c'est l'idée qu'on a. Là, le Greta, je spoil un peu, mais ils vont même préparer le repas de Noël pour tous les salariés du jardin le 19 décembre.
Donc, ouais, je pense que on sera diffusé après. Bon. Donc, ça sera pas un spoil.
Bon. Et donc, qu'est-ce que c'était bon. on va faire comme ça, en fait. Et voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment ça, en fait, ce tiers-lieu qui est en train de prendre corps, là. C'est les dynamiques, tout un tas de dynamiques dans le territoire qui peuvent se croiser à un instant T sur des espaces temps donnés et puis donner quelque chose qu'on n'aurait pas attendu, quoi.
Je vais faire mon capitaliste, c'est pour ça que de temps en temps on est obligé de facturer des trucs,
c'est vrai,
parce que c'est pour utiliser la cuisine, etc., parce qu'en fait on a un risque sur le modèle économique aujourd'hui à Biosolidaire. Ouais. Du coup forcément là en ce moment ce qu'on travaille c'est qu'est-ce qu'on rend payant pour pouvoir permettre des événements gratuits de ce type. Parce que, pour pouvoir garder le tiers-lieu. C'est un peu le sujet du moment.
Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que, du coup, la restauration, la dimension cantine, la dimension café, la dimension bar, les ateliers aussi, dont tu viens de parler, sont aussi des moyens de créer de l'activité et de consolider un modèle économique. Quoi,
et donc, clair. En conclusion, si vous avez un super projet alimentaire, il y a quand même un mec super que vous venez d'entendre qui s'appelle Arnaud Moyen,
bonjour,
qui est à Biosolidaire. Vous allez toquer, vous dites « Salut, c'est moi, j'ai un super projet !» Et vous serez toujours bien accueillis. On est d'accord ?
Ah grave, vous êtes les bienvenus, la porte est ouverte. Et en plus, je suis pas tout seul dans l'assaut, c'est ça qui est pas mal. Donc vous serez accueillis même si moi je suis pas là.
Et très bien. Et on va terminer là-dessus, les gars. Merci beaucoup Arnaud d'être venu nous raconter tout ça.
C'était super. C'était cool. Et puis voilà.
Et puis c'est parti.
Ben ouais, et on attend le correctif.
Longue vie au tiers-lieu.
Ouais, longue vie au tiers-lieu, longue vie au podcast. Longue vie aux élus. C'est ça qu'on dit.
Ouais, c'est bien. Allez, on finit là-dessus. Thank you.